Daesh promettait un ramadan de sang. Il a culminé avec l'attentat de Bagdad dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le plus meurtrier et le plus impressionnant depuis 2003. 213 morts et 200 blessés, touchés par l'explosion d'un camion rempli d'explosifs dans le quartier commerçant et chiite de Karada. Là où les familles profitaient de ce moment de rupture du jeûne et allaient faire leurs courses à la veille de l'Aïd el-Fitr. Première conséquence politique, le ministre irakien de l'Intérieur, Mohamed Al-Ghaban, a présenté aujourd'hui sa démission au Premier ministre Haider al-Abadi. Pas sûr que ça suffise à calmer la colère grandissante de la population contre un gouvernement très fragilisé. Après la reprise de Fallujah par l'armée irakienne le 26 juin et plus largement le recul territorial du groupe État islamique, celui-ci montre encore une fois sa capacité de frapper durement la population. Alors Irak, entre victoire militaire et défaite sécuritaire, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler ici en studio à Paris, Loulua Al-Rachid, bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes docteur associé au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po Paris, ancienne analyste, référent sur l'Irak au sein de l'International Crisis Group. En face de vous, votre ancien professeur je crois, Bertrand Badi, bonsoir.
Ça me rajeunit pas, oui.
Vous êtes politologue, professeur de géopolitique à Sciences Po, donc on l'aura compris.
Pas de géopolitique.
Pardon, alors de...
De relations internationales.
Excusez-moi. Professeur de relations internationales. Pourtant, c'est pas la première fois que je vous invite, Bertrand Badi. Professeur donc de relations internationales à Sciences Po. En face, lui, il est bien documentariste et journaliste. C'est Paul Moreira. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez, il y a 15 jours d'Irak, de Bagdad, pour un documentaire que vous avez tourné pour le Première Ligne, l'agence Première Ligne, et qui sera peut-être visible sur Canal+, bientôt. Merci d'être avec nous. Et lui aussi, était en Irak il y a peu. C'est Omar Waman, le correspondant de Radio France à Beyrouth. Bonsoir Omar.
Bonsoir Raphaël.
Oui, vous avez beaucoup couvert l'Irak, hein, évidemment, pour Radio France depuis 2002, donc dès avant l'invasion américaine. Vous étiez là-bas il y a peu pour couvrir la bataille de Fallujah. Ce quartier de Karada à Bagdad, vous le connaissez, vous l'avez arpenté, Omar ?
Oui, comme Paul Moreira d'ailleurs, que j'ai vu à Bagdad et qui connaît très bien ce quartier de Karada, l'un des quartiers les plus animés de la capitale irakienne, le plus vivant, hein, probablement, avec ses échoppes, ses restaurants, ses centres commerciaux. C'est dans son artère principale, bien c'est là que l'attentat a eu lieu, que des milliers de Bagdadis avaient pris l'habitude de se retrouver le soir pour la rupture du jeûne du Ramadan. À la tombée de la nuit, vous l'avez dit, cette avenue très longue, avenue commerçante, se remplit d'une foule compacte venue majoritairement en famille. De nombreux enfants figurent d'ailleurs parmi les victimes. Karada est situé en plein cœur de Bagdad. C'est un quartier habité par une majorité de musulmans chiites, mais il y a également des chrétiens, une petite minorité. Et ce n'est pas la première fois que les djihadistes frappent Karada. C'est un quartier qui est régulièrement la cible des voitures piégées de Daesh.
Paul Moreira, ce quartier de Karada, c'est une cible, comme vient de le dire Omar Waman.
Karada, si vous voulez, enfin, moi, c'est une des premières fois où je vais à Bagdad et où le soir, je flâne, je vais manger en terrasse. J'allais boire des petits jus à Karada, j'avais repéré un petit café formidable avec des gens qui étaient heureux de voir des étrangers, parce que les Irakiens sont très très accueillants et heureux de voir que des étrangers sont revenus. Donc c'est vraiment un havre de paix, il y a la lumière, il y a des gosses, c'est un endroit où on peut se promener. C'est le paradoxe de Bagdad, c'est que aujourd'hui niveau enlèvement, c'est à mon avis encore plus safe que Paris. Mais il y a toujours cette possibilité des attaques à la voiture bombe de Daesh.
Omar Waman, on a très vite fait le lien, justement, je disais, vous avez couvert la bataille de Fallujah, on a très vite fait le lien entre ce recul de Daesh, cette défaite à Fallujah et cet attentat. Est-ce qu'il fallait faire aussi vite ce lien entre les deux, selon vous ?
Oui, il y a un lien. La perte de Fallujah est un gros coup dur pour les djihadistes qui avaient conquis cette ville en janvier 2014. C'était leur première conquête en Irak, hein. Donc c'est une ville qui a servi de laboratoire, véritablement, avant l'expansion de leur califat jusqu'à Mossoul, au nord de l'Irak et en Syrie, de l'autre côté de la frontière que Daesh ne reconnaît pas. Cette attaque a pour objectif de rappeler que même affaibli, eh bien Daesh a les moyens de frapper n'importe où en Irak et même en plein cœur de la capitale. On sait que les djihadistes jouissent de nombreux soutiens à Bagdad, mais également autour de ce qu'on appelle la ceinture de Bagdad. C'est de là que serait parti le camion piégé qui a ravagé Karada. Si l'on en croit Al-Ghaban, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur irakien qui a présenté aujourd'hui sa démission, le camion serait parti de la province de Diyala, au nord de Bagdad, avant de franchir sans difficulté tous les barrages, hein, tous les checkpoints de la capitale pour aller provoquer ce massacre.
Loulou Al-Rachid, comment comprendre que ce camion ait pu traverser comme ça ces checkpoints sans problème ?
Alors, avant de répondre à cette question précisément, j'aimerais juste rajouter quelques mots sur le quartier de Karada. Le quartier de Karada, comme cela a été dit, était un quartier extrêmement vivant. Mais je crois que l'identité du quartier de Karada est importante à comprendre. C'est l'un des rares quartiers de Bagdad où persistait encore une forme de mixité interconfessionnelle. Il y avait, vous l'avez dit, des chrétiens, mais il y avait aussi beaucoup de sunnites dans ce quartier. Et c'est un quartier qui, par son côté vivant, par ses commerces, par ses restaurants, brassait pas mal de Bagdadis, surtout ces classes moyennes irakiennes qui n'ont pas d'autres moyens en fait de se distraire et qui voyaient en Karada un havre de paix. C'était l'un des rares quartiers de Bagdad où l'on pouvait encore voir des femmes non voilées, alors que dans tout le reste de la capitale, les femmes sont complètement voilées. L'autre élément sur Karada, c'est que le premier ministre Haïdar al-Abadi est lui-même originaire de ce quartier. C'est un quartier dont l'identité citadine urbaine est extrêmement forte. Ce n'est pas une zone tribale ou tribalisée ou détribalisée. En tout cas, c'est un quartier où les habitants sont originaires de la capitale et n'ont pas d'autres ramifications à l'extérieur de Bagdad. Donc c'est vraiment une cible de choix pour l'attentat. Pour revenir à votre question, comment se fait-il qu'un camion frigorifique bourré d'explosifs puisse circuler, traverser de longues distances et exploser dans un quartier aussi sensible. Il y a plusieurs réponses à cela. Il y a le fait, je crois que la réponse aujourd'hui qui est sans cesse invoquée par les Irakiens, par la population, c'est la corruption. La corruption du système politique et militaire irakien et sécuritaire irakien est responsable de ce massacre qui a eu lieu en plein cœur de Bagdad. Les Irakiens blâment les faux détecteurs d'explosifs qui sont liés à une affaire scabreuse de commission. Tous les checkpoints en Irak sont équipés de ces fameux détecteurs d'explosifs qui ne détectent absolument rien et qui à l'origine étaient fabriqués pour retrouver les balles de golf. Été vendus par un escroc britannique au ministère de l'Intérieur.
En prison maintenant.
Jim McCormick.
Voilà, qui est lui-même en prison, alors que les responsables irakiens qui se sont enrichis par le biais de ce contrat n'ont pas été inquiétés.
Alors une dernière question, Omar, avant de vous libérer, puis de me tourner vers Bertrand Badi pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue sur la question. La chute de Fallujah, on disait que Fallujah, c'était de là que partaient les voitures piégées, que c'était là que c'était ça, la propagande, on va dire, ou en tout cas la communication du gouvernement irakien. En faisant tomber Fallujah, on empêchait les djihadistes de commettre ces attentats suicides. On voit qu'il n'en est rien.
Oui, en fait, ce carnage révèle une fois de plus l'impuissance des autorités irakiennes à prévenir les attentats menés par le groupe État islamique. Et malgré les très nombreux barrages qui quadrillent Bagdad, à chaque croisement, hein, vous avez ces checkpoints tenus par des soldats nerveux. Les contrôles sont aléatoires, le plus souvent sommaires, et les embouteillages monstres. C'est une ville congestionnée, hein, Bagdad. C'est une ville qui s'est littéralement barricadée avec ici et là des murs de protection autour notamment des bâtiments officiels, mais aussi pour séparer les quartiers chiites des sunnites. Mais ce qui provoque, vous l'avez dit, la colère des Irakiens, c'est effectivement l'utilisation par les forces de sécurité de ces détecteurs d'explosifs qu'ils jugent inutiles. Ils sont de la forme d'un pistolet, ils sont équipés d'une tige métallique et ces appareils censés détecter les substances explosives sont en réalité totalement inefficaces.
Merci beaucoup Omar Ouaman. On vous retrouvera évidemment sur les antennes de Radio France, celle de France Culture en particulier, continuerait de nous informer sur la situation dans la région. Bertrand Badi, est-ce qu'on a raison de continuer de regarder la situation en Irak avec une grille de lecture qui est territoriale, on parle en termes de stratégie, comme si l'opposition, d'ailleurs ça rejoint un peu tout le débat qu'on a eu sur la question de savoir s'il fallait d'État islamique, de Daesh, etc. Bref, comme si on avait une opposition classique entre des forces en présence.
Vous avez raison, c'est ça la faute. Trois points pour illustrer ce que vous venez de dire. Premièrement, il n'y a pas d'État irakien. Ou il y a un quasi-État, ou comme on dit un État failli, un État décomposé. Pourquoi je mets ce point en tête? C'est parce que autrefois les guerres, et celles qui sont dans la mémoire de nos dirigeants occidentaux et de nos diplomates occidentaux, c'était des conflits de puissance entre États très structurés. Et justement, il y avait un lien entre guerre et puissance de l'État. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Le lien, il est entre guerre et absence d'État. C'est la décomposition des États, la faiblesse des États qui crée des situations de guerre. Deuxième remarque, ce sont des conflits, en réalité, à fondement beaucoup plus social que politique ou étatique. C'est-à-dire que derrière la question de irakienne, il y a le déchirement du contrat social, il y a l'absence de nation irakienne, il y a l'atomisation de ce pays entre ces trois communautés qui finalement fonctionnent plus ou moins sur un mode autonome, et cet éclatement a donné libre cours à humiliation, vengeance, vendetta de toute nature, cycle du sang, et en quelque sorte nous nous trouvons comme prisonniers d'une logique qui n'est pas une logique interétatique. Et le troisième point, on a commis l'erreur d'avoir une vision ultra simplifiée de Daesh. Alors à un moment, on a voulu nous vendre l'idée que Daesh était un État, et parce qu'il se proclamait État, parce qu'il contrôlait un morceau de territoire, parce qu'il avait une administration, des ministères qui levaient l'impôt, etc. Oui, mais c'est pas ça un État. Et surtout, il n'y a pas dans la stratégie du calife al-Baghdadi une volonté étatique. La réalité, c'est que Daesh est un acteur extraordinairement complexe qui prend quelquefois des parures d'État, mais qui est réticulaire, qui vient en quelque sorte se développer non seulement sur son territoire, mais partout ailleurs. Et nous autres en France, on en a su quelque chose durant l'année 2015. Et voilà effectivement l'expression d'une violence qui est très probablement liée effectivement à Daesh, mais qui montre davantage sa nature réticulaire et ses capacités de mobilisation hors des logiques territoriales que le profil bien classique d'un État. Alors l'erreur des Occidentaux, c'est qu'ils combattent Daesh comme on combattrait pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg tel ou tel autre État. C'est absurde.
Paul Moreira, ce dont parle Bertrand Badie notamment, cette absence d'État irakien, c'est vrai que c'est ressorti très très fortement à la suite de cet attentat. On a vu le Premier ministre Haïdar al-Abadi se rendre sur le lieu de l'attentat, se faire cracher dessus, jeter des chaussures. Il a été très très mal reçu, évidemment, puisqu'il avait fait la promesse d'assurer la sécurité des Irakiens et des Baghdadis en particulier. Vous qui avez rencontré justement ces Irakiens, est-ce que c'est la première chose dont ils vous parlent? C'est peut-être une question idiote, mais le problème de la sécurité, c'est ça.
En fait, bon, moi, j'allais enquêter sur quelque chose de très particulier qui était... en fait, je cherchais le moment matriciel où Daesh est né, c'est-à-dire en gros vers 2004. Et pour faire ça, je retrouvais des vieux copains et en même temps, j'ai accompagné la chute de Fallujah. Et le truc qui revient de manière spontanée, qui me semble-t-il, et l'obsession des Irakiens aujourd'hui, c'est le venin identitaire. Et ça doit nous parler à tous aujourd'hui, parce que le venin identitaire, il peut avoir diverses formes. Le venin identitaire qui a fait qu'à un moment donné, à la fois l'État islamique, l'embryon de l'État islamique, parce que Zarqawi, en 2004, c'est le père de l'État islamique, réussit à enfoncer un coin extrêmement sanglant entre les chiites et les sunnites. Et il faut bien le dire, la stratégie des Américains. À un moment donné, en 2004, l'insurrection, elle était sunnite et chiite. Les chiites, ils donnaient du sang pour les insurgés sunnites de Fallujah. Il n'y avait pas du tout cette opposition. Et à un moment donné, l'idée de diviser pour mieux régner est devenue une stratégie appliquée quotidiennement. Et donc, il y a eu une conjonction involontaire, mais une conjonction de stratégies entre les Américains qui avaient besoin de diviser l'insurrection entre sunnites et chiites et le propre Zarqawi, donc le père de l'État islamique, qui a joué à fond la carte de « je vais tuer autant de chiites que je peux ». Et aujourd'hui, on en est là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les fameuses milices chiites, enfin les brigades populaires qui clament qu'il y a des sunnites dedans, c'est une de leurs obsessions. Ils disent nous ne sommes pas des milices confessionnelles, nous voulons un Irak uni, et ils le rebattent sur tous les tons. À mon avis, c'est pas gagné, mais c'est quand même au cœur de ce que moi j'ai vu, quoi, de ce dont je peux témoigner, c'est que là, ils se disent, il faut qu'on sorte de cette logique confessionnelle, elle nous tue.
Le Loual Rachid, ce que dit Paul Moreira sur cette logique confessionnelle, c'est quelque chose que vous pouvez constater aussi, que vous pouvez appuyer?
Alors, je crois que le problème est bien plus profond, en fait, que cela. Le problème est que, depuis 2003, les sunnites d'Irak, les arabes sunnites d'Irak, n'ont toujours pas trouvé leur place.
Rappelons qu'ils représentent à peu près 20% de la population.
Grosso modo, 20 à 25% de la population irakienne. Depuis 2003, ils peinent à s'insérer dans le jeu politique, ils peinent à s'insérer dans la reconstruction, dans le peu de reconstruction économique qui a eu lieu dans le pays. Ils sont toujours en guerre contre ce pouvoir qui, en 2003, leur a été confisqué par les Américains et, entre guillemets, donné aux chiites. En tout cas, c'est leur perception collective. Ils ont, avec la chute de Saddam Hussein en 2003, perdu le pouvoir. Et depuis, leurs élites politiques, leurs représentants, ceux qui ont graduellement accepté de rentrer dans le jeu politique mis en place par les Américains, dans cette vie parlementaire, dans ces gouvernements de coalition qui gouvernent le pays depuis, n'ont pas réussi à tenir les promesses de reconstruction économique, les promesses de pacification de ces régions qui sont complètement sinistrées. Il faut le rappeler, le monde sunnite irakien est complètement sinistré. Il ne subsiste plus rien des quelques villes ou bourgades sunnites qui tenaient encore debout. Aujourd'hui, elles sont encerclées par des milices majoritairement chiites et bombardées de façon continue par l'aviation coalisée. Donc, ce sont des régions et les Arabes sunnites d'Irak sont réduits aujourd'hui au statut de réfugiés à l'intérieur de leur propre pays. Ils s'entassent dans des camps à l'intérieur de leur pays et sont démunis. Et donc la question de la radicalisation, la question de ce poison identitaire vient de leur exclusion politique.
Bertrand Badi ?
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque l'État n'existe plus, ou en tous les cas n'est plus perçu comme légitime, on va chercher des formules de substitution. C'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire ces formules de substitution, ça peut être les structures tribales, ça peut être les références ethniques, c'est des choses qu'on voit très souvent en Afrique, pensez à la guerre, au conflit des Grands Lacs par exemple, où le phénomène était tout à fait remarquable, où l'ethnie s'est substituée à l'État. Là, effectivement, ce sont trois communautés qui apparaissent comme substituts d'un État qui n'existe plus. Ce n'est pas possible de faire fonctionner un système politique à partir du moment où il n'y a pas un minimum de contrat social. Et ce défaut d'intégration, non seulement il conduit à ces logiques d'identification, mais en plus de ça, il produit de la violence. Quand vous mettez bout à bout des références identitaires qui sont extrêmement clivées. Le propre d'une référence identitaire, c'est qu'elle se définit contre l'autre. Ce qui est la différence d'un État. Vous vous définissez à côté d'autre. Là, vous vous définissez contre d'autre. À partir du moment où vous affirmez votre identité chiite, cela veut dire que vous combattez les sunnites ou que vous combattez les Kurdes. Donc, à partir du moment où vous mettez ceci bout à bout avec des logiques d'humiliation et de frustration, vous retrouvez la violence. J'aurais presque tendance à dire, mais je veux pas que ce soit mal compris, qu'il y a une banalisation de la logique de violence qui devient une sorte de langage de substitution dans des pays comme l'Irak ou comme la Syrie. La Syrie pour des raisons différentes, mais avec des résultats... Mais
ne rentrons pas en Syrie, parce que la situation est en effet différente et tout aussi complexe. Paul Moreira, est-ce que, pour continuer sur cette grille de lecture sunnite-chiite et réintégrer un petit peu Daesh, qui nous occupe aussi aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours dire, qu'on a pu le dire, que finalement la population sunnite est un soutien de Daesh? Ou est-ce que c'est... Non, là aussi plus compliqué que ça, j'imagine.
Non, mais c'est à la fois plus compliqué que ça, et il y a eu un moment historique, et c'est pas la première fois, parce qu'en 2005, déjà, Mossoul avait été envahi par une insurrection sunnite qui ne s'appelait pas Daesh à l'époque, mais la ville était tombée en quelques heures, exactement comme elle est tombée en 2012. Les sunnites, c'est vrai, ont été assez maltraités, parce que... Alors, juste pour équilibrer un peu ce que vous disiez... En fait, la logique confessionnelle a été appliquée par les Américains d'une manière un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a divisé les ministères selon les confessions. Je me souviens, j'étais en 2006, et c'était le ministère de l'Intérieur était aux mains des chiites, le ministère de l'Éducation supérieure était aux mains de partis sunnites.
C'est le modèle libanais, en quelque sorte.
C'est en quelque sorte le modèle libanais qui a été et qui s'est révélé explosif. Moi, j'ai assisté de mes yeux à des guerres entre ministères. Mais quand je dis des guerres, ils se lançaient pas des boulettes, hein. Ils se tiraient dessus. Il y avait des enlèvements, des enlèvements géants. Des types du ministère de l'Intérieur étaient rentrés dans le ministère de l'Éducation supérieure. Ils étaient repartis avec 170 personnes. Ah, ils étaient bien embêtés, les Américains, pour justifier ça.
Donc là, on est en 2003, juste après l'intervention.
2006. Alors que, bon, théoriquement, c'est stabilisé. Vous avez 35 voitures de police qui rentrent avec des policiers qui sont des vrais policiers et qui prennent en otage 170 fonctionnaires d'un ministère. Et là, vous avez le porte-parole de l'armée américaine qui dit non, mais c'était des terroristes déguisés. On dit, mais quand même, 35 voitures de police, c'est dur. Ah non, mais ils ont maquillé les voitures. Et donc, il y a eu cette espèce de déni de cette machine infernale qui a été divisée, de renforcer en fait les divisions confessionnelles entre sunnites et chiites et kurdes dans ce pays, qui a coûté très cher. Et qui a coûté encore plus cher quand on a mis en place des commandos spéciaux de la police, notamment à Mossoul. Et ça, c'est vraiment une idée américaine hein, de M. James Steele et le colonel Kaufman. On a intégré dans les forces spéciales irakiennes des milices comme les milices Badr. On a créé un machin qui s'appelait la Brigade du Loup, qu'on a lâché sur Mossoul, et qui faisait des rafles. On arrêtait les gens dans les quartiers sunnites. Moi, je l'ai filmé. J'ai réussi à filmer à l'intérieur d'une prison à Mossoul. Et les gens se levaient et disaient, monsieur, moi, je suis là parce que j'ai un nom sunnite. Et vous voyez bien que c'était pas des terroristes. C'était pas du tout la tête de terroriste, quoi. Et c'était, donc, il y avait une politique de rafle qui a construit la colère et le désarroi sunnite et qui a fait qu'effectivement, quand il y avait des groupes armés sunnites qui se proposaient donc de rétablir l'équilibre, eh ben les gens se livraient à eux.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
C'est la mauvaise virgule qui est partie. Ce soir, c'est Raphaël Bourgois pendant tout le mois de juillet. D'ailleurs, Hervé Gardette prend des vacances bien méritées, même s'il animera les rencontres de Pétrarque à partir de la semaine prochaine. Vous allez donc le retrouver. Ce sera de 17h à 18h. Voilà, comme ça, j'ai fait un peu d'auto-promo. Dans le grain à moudre d'été ce soir, on parle de l'Irak et on se demande si la victoire militaire finalement ne renvoie pas à une défaite sécuritaire. On est avec trois invités, Loulou Al-Rachid, Bertrand Badi et Paul Morera. Loulou Al-Rachid, Paul Morera, avant cette interruption, nous faisait un petit peu le portrait de cet Irak divisé. Comment est-ce que vous pourriez... est-ce que cet aspect confessionnel, ce soutien... finalement, qu'on a souvent dit, celui des sunnites à Daesh, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué aujourd'hui ?
Bon, j'entends bien. Enfin, c'est assez pratique de réduire tous les mots qui frappent l'Irak à la question confessionnelle, cette fameuse guerre de religion entre sunnites et chiites. Malheureusement, et de ne voir en Daesh, l'État islamique, qu'un problème de terrorisme auquel l'outil militaire ou les outils classiques de contre-insurrection et les bombardements aériens auxquels suffiraient en fait à enrayer le phénomène. Cette grille de lecture n'est ni vraie ni fausse. Elle est souvent pratique pour simplifier le débat et souvent juste distribuer des blâme aux uns et aux autres. Le confessionnalisme en Irak a été exacerbé effectivement par les politiques, par l'invasion américaine de 2003 et les modalités d'administration mises en place et de gouvernement mises en place par les Américains. C'est indéniable. Il y a aussi une part de responsabilité. Il y a l'histoire de la société irakienne. Il y a ce que le professeur Badi a souligné. Nous sommes en présence d'un phénomène pur qu'on pourrait réduire au terrorisme, mais d'une guerre sociologique. Il y a des pathologies sociales, des dysfonctionnements sociaux, des dysfonctionnements économiques et des dysfonctionnements dans la représentation politique qui expliquent tout ce déchaînement de violence depuis 2003. L'Irak n'a jamais véritablement connu de répit depuis 2003. Le problème est Et aujourd'hui, c'est Daesh, à la limite, a eu un effet d'aubaine sur un peu tout le monde, pour tout le monde. Daesh masque les vrais problèmes. Daesh permet aussi bien à la communauté internationale de dire qu'elle n'est pas totalement désarmée, qu'elle n'est pas inactive, qu'elle fait quelque chose, qu'elle est en guerre contre ce monstre qui aurait émergé en 2014 avec la chute de Mossoul aux mains des combattants de l'État islamique. Elle permet aussi aux dirigeants irakiens de se débarrasser de leurs propres responsabilités, de leur propre incurie, de leur propre corruption et de réduire le problème à la guerre contre le terrorisme et de solliciter davantage de financement et de soutien de leurs partenaires internationaux. Le problème est que nous n'avons plus d'État irakien. Depuis 2003, nous avons une mafia, la mafia de la zone verte, de cette zone sanctuarisée de Bagdad, qui gouverne tant bien que mal. Elle ne gouverne pas véritablement. Elle est obligée aujourd'hui de céder d'une constellation de milices, de groupes armés. Et Daesh n'est qu'une milice armée parmi d'autres sur le sol irakien. Donc c'est de là que vient le problème. On ne résoudra pas le problème de la représentation politique, de l'intégration ou de la désintégration des Arabes sunnites par l'outil militaire. Il faut le souligner. Et je crois que la grille confessionnelle est tout à fait trompeuse et dangereuse.
Bertrand Badi, pourtant cet outil militaire, c'est celui qui est aux mains de ce qu'on appelle, avec ce nom de communauté internationale, en tout cas il y a une coalition qui frappe en Irak, et on a l'impression que voilà, la victoire militaire peut être obtenue contre Daesh, en tout cas c'est ce qu'on nous explique.
C'est là l'hiatus, c'est là le grand malentendu, et c'est probablement de là que vont venir les problèmes à venir. Loulia Rached a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit sociologique. C'est-à-dire que ce n'est pas le chiisme en soi contre le sunnisme en soi, c'est une communauté sociale, les sunnites, qui était rejetée hors du système. Quand vous êtes rejeté, quelle que soit votre religion, votre langue, votre ethnie, votre profession, vous avez un sentiment de frustration, d'humiliation et probablement de vengeance. Daesh, dans cette affaire, c'est ce que, dans notre jargon, nous appelons un entrepreneur de violence, c'est-à-dire une entreprise politique, fondamentalement politique avant d'être religieuse, bien entendu, qui va chercher à tirer profit, effectivement, de ces populations qui sont hors système politique. C'est très grave, une population hors système politique. L'erreur magistrale qui a été commise, notamment par les dirigeants occidentaux, pas tous d'ailleurs, parce que Barack Obama a été beaucoup plus prudent dans cette affaire, c'est de considérer Daesh non pas comme un entrepreneur politique qui fait en quelque sorte fructifier les avantages de cette exclusion sociale, mais comme une sorte d'État que l'on combat par les armes. Mais en combattant Daesh par les armes, on lui donne une toute autre identité, une toute autre nature. À partir du moment où Daesh réussit à attirer contre lui les armées occidentales, alors là, le conflit se transforme d'un conflit irakien lié à ce déchirement du contrat social. On passe à un conflit international qui oppose Occident au monde musulman, islam, chrétienté et tout ce que l'on connaît. C'est extraordinairement dangereux, surtout qu'il faut s'en rappeler toujours, comme le disait Loulia il y a un instant, que le canon, ça marche contre le canon, ça marche pas contre des sociétés en décomposition.
Paul
au
Moreira.
Contraire.
Paul Moreira.
Certes, cette analyse, elle est fonctionnelle et je la comprends, mais dans la réalité, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est quand même des milliers de sunnites qui tentent de fuir par tous les moyens, en risquant leur vie, en se noyant, en essayant de franchir à la nage l'Euphrate. Je pense que ce qui a pu exister à un moment donné, il y a quelques années, de liens entre certaines populations sunnites et ce groupe armé, à mon avis, on ne peut comparer qu'au Khmer Rouge. C'est une sorte d'excroissance fanatique, meurtrière, psychopathe, dont la matrice est Zarqawi, un raté du banditisme devenu, usant de la rédemption religieuse la plus extrême pour essayer de se trouver un lien social. C'est la matrice qu'on retrouve d'ailleurs en Europe. Les gars de Daesh, ils se ressemblent à peu près tous. Ils ont raté leur carrière de voyous et donc ils sont investis dans le fanatisme religieux. Donc je pense que moi, c'était mon impression, je suis peut-être optimiste, que en fait, aujourd'hui, il y a quand même la société irakienne et la conscience profonde qu'il faut se débarrasser des psychopathes de Daesh. Et ça, franchement, j'ai rencontré personne, y compris des gens qui vivaient à Fallujah que j'ai pu interviewer, qui me disent « Ouais, mais quand même, ils nous protégeaient, c'était bien. » Tous, ils disent « Ils mangeaient superbement alors que nous, on mangeait des dattes pourries. Ils mettaient des balles dans la tête des gens qui essayaient de se sauver. » Ils disaient « Certes, au début, on les accueillit, ils avaient l'air sympas. » Dans les quelques jours, ils sont arrivés juchés sur des chars en brandissant des armes. Ils ne se sont pas doutés du cauchemar qui commençait. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Le bon côté de ce cauchemar daéchien, c'est que ça redonne à la société irakienne le sentiment qu'il faut qu'elle se débarrasse de ce venin identitaire.
Alors, on l'aura compris, la réponse est plus politique que militaire, internationale. Il y a un homme politique en Irak aujourd'hui qui prétend, se présente comme un héros et prétend transcender un peu les divisions, c'est Moqtada al-Sadr. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, Loulou al-Rachid? Est-ce qu'il présente aujourd'hui une alternative possible pour revitaliser la politique en Irak? Puisqu'on a compris que c'était un état failli, la politique, plus personne n'a confiance en la politique en Irak. Est-ce que lui, c'est un personnage... je sais pas, intéressant dans cette sphère.
Moqtada al-Sadr est un religieux, un enturbané. Il est le fils d'un très grand ayatollah irakien qui a émergé au cours des années 90 et qui a représenté une véritable opposition de l'intérieur au régime de Saddam Hussein. Cet ayatollah a été, donc le père de Moqtada, a été assassiné en 1999 par le régime de Saddam Hussein. Il a su rassembler au cours des quelques années où le régime l'a laissé émerger en croyant pouvoir l'instrumentaliser pour canaliser la colère de la population chiite, il a représenté un schisme irakien, un schisme de l'intérieur, un schisme combattant, un schisme qui exprimait sa défiance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la répression. Donc Moqtada a capitalisé, en fait, est un héritier qui...
Mais de manière très impressionnante, parce qu'on a vu ce sit-in dans la zone verte, la fameuse zone verte de Bagdad, c'était ces partisans qui ont envahi la zone verte et qui ont fait un sit-in, qui ont visité la zone verte, qui est cette zone très 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 protégée au sein de Bagdad. Alors, donc il y a un vrai poids politique.
Moqtada, depuis donc la chute du régime de Saddam Hussein, essaye de fructifier son héritage politique en affirmant son identité d'opposant de l'intérieur vis-à-vis des exilés, de tous ceux qui sont venus, de tous ces politiciens irakiens revenus de leur exil avec les Américains, et que les Américains ont installé dans cette fameuse zone verte, sanctuarisée, hautement sécurisée. Donc l'assaut de Moqtada al-Sadr et de ses partisans contre la zone verte est un acte éminemment symbolique. Je dirais qu'il met fin, en fait, qu'il annonce la mort de ce processus politique que les Américains essayent de maintenir tant bien que mal depuis 2003. Il incarne peut-être l'espoir d'un renouvellement. Là encore, les choses sont bien plus compliquées que cela. Il jouit d'une immense popularité au sein des marges de la société irakienne, des marges de la société chiite. Il est la voix de tous ceux qui ont été discriminés, marginalisés. Il est la voix des bidonvilles, la voix des quartiers les plus déshérités de la capitale, notamment à Sadr City, qui porte le nom du père assassiné de Moqtada al-Sadr. Il est lui-même un acteur, un entrepreneur de violence, comme le professeur Badina l'a rappelé. Il est à la tête d'une milice armée qui, depuis 2003, a eu des moments d'affrontement, plusieurs épisodes d'affrontement contre le régime, contre le pouvoir central, contre l'armée américaine, contre l'occupation américaine, et qui, depuis 2006, essaye de négocier une meilleure part du pouvoir, une meilleure représentation au sein des institutions. Donc, c'est assez ambigu de le qualifier comme étant l'espoir d'un renouvellement. Il est lui-même un acteur milicien qui cherche simplement, par la violence, par sa démagogie et les instruments classiques de la colère populiste, à négocier une meilleure insertion dans ce jeu politique.
Paul Moreira.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est que la fameuse invasion de la zone verte, elle a eu lieu après une manif du vendredi. Tous les vendredis, est organisée à Place Tahrir une manifestation contre le confessionnalisme, contre la corruption, et qui demande une réforme du gouvernement. Alors, ce qui est intéressant dans ces manifestations hebdomadaires, c'est qu'elles sont appelées par Moqtada al-Sadr, mais aussi par, et là c'est, on se dit tiens, ils existent, le Parti communiste, la gauche universitaire, et donc il y a une sorte de, je suis allé à deux de ces manifestations, il y a une sorte d'étrange mélange entre, c'est vrai, le lumpen prolétariat de Sadr City, 100% Moqtada, et puis des gens, des femmes non voilées, des universitaires, des jeunes en jeans, qui ont une tête de révolutionnaires égyptiens et qui sont liés à l'extrême gauche irakienne, qui existe. Et ils sont pas très nombreux, mais ils sont en fait à la tête. Ils co-organisent avec les sadristes ces fameuses manifestations du vendredi.
Bertrand Badi, vous vouliez réagir?
Oui, je voudrais revenir un moment sur cette notion d'entrepreneur de violence qui me paraît quand même très très important. Je ne dis pas que les entrepreneurs de violence sont plébiscités par les populations. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que regardez la carte du monde. Partout où il y a des défauts graves d'intégration sociale, vous voyez pousser, sous des formes très diverses, ces entrepreneurs de violence. Ça a été vrai en Somalie, ça a été vrai au Nord-Mali, ça a été vrai, et ça l'est encore, au Yémen, en Afghanistan, ça l'est dans nos banlieues aussi. Alors, il ne s'agit pas de dire ces gens-là sont des très sales gens qui sont rejetés par la population. Ça, c'est facile à comprendre, effectivement. Mais lorsqu'on a dit ça, on n'avance pas beaucoup. Le problème est de savoir quelle est la racine de cette forme nouvelle d'action et d'organisation politique qui est complètement extra-étatique, a-étatique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut quand même discuter aussi, c'est peut-on s'approprier le conflit des autres? C'est-à-dire, nous avons affaire à un conflit dont on a vu qu'il a des racines profondément irakiennes. Est-ce que la superposition de la communauté internationale, entre guillemets, sur ces conflits, en ajoute ou en retranche? Je ne crois pas que ça retranche du conflit, je crois que ça en ajoute.
Loulou Al-Rachid, comment on s'en sort alors, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps? On fait comme Paul Moreira nous le disait tout à l'heure, on fait confiance aux gens, au fait qu'ils en ont marre de vivre dans cette situation. C'est possible, selon vous, qu'il y ait une sorte de sursaut? Quels seraient les ingrédients?
C'est une question, c'est une colle, vous me posez une colle. Je ne ferai pas le métier que je fais si j'avais une réponse. Les politiques croient avoir des réponses à ce genre de questions. Il ne faut pas oublier les temporalités. La violence a sa propre temporalité. La violence ne s'épuise pas en quelques années. Ce sont des conflits qui parfois épuisent plusieurs générations avant de s'apaiser, avant que les sociétés n'acceptent de déposer les armes. Donc, pour le moment, la violence est toujours payante en Irak. La violence vous fait monter dans la hiérarchie sociale. La violence vous fait subvertir toutes les hiérarchies sociales. Et le conflit n'est pas seulement entre sunnites et chiites. Le conflit est intra-chiite et intra-sunnite comme il est intra-kurde. Et on le voit, vous avez parlé de Muqtada Sadr. Muqtada Sadr est aujourd'hui quelqu'un qui est un challenger, en fait, du système politique, qui veut, c'est un chef qui dispose de plusieurs cartes, une carte religieuse, une carte charismatique, puisqu'il est très, il est très populaire chez les jeunes, chez ce lumpen prolétariat. Mais c'est aussi un chef de milice qui a la particularité de vouloir se transformer en homme d'État. C'est là toute la difficulté. Vous avez des entrepreneurs de violence qui veulent s'emparer de cet État failli, cet État qui est vide aujourd'hui, qui ne signifie rien, qui ne contrôle plus son propre territoire dit national, qui ne contrôle plus ses ressources dites nationales, puisqu'il doit composer avec une chaîne interminable de trafiquants, de contrebandiers, de mafieux, de criminels, d'entrepreneurs identitaires. Et par conséquent, c'est là la difficulté. Il n'y a pas de solution.
Vous avez dit la difficulté, ce sont les difficultés, hein,
la longue liste. On ne reconstruit pas un système politique par des bombardements aériens et qu'on ne construit pas un système politique par un quadrillage policier, par le renseignement. Il faut revenir aux fondamentaux des sociétés, en fait.
Écoutez, peut-être qu'on aura une forme de solution, en tout cas de réponse demain dans les matins de France Culture, mais sur la question plus de la sécurité, hein, puisque Olivia Gesbert se demandera avec ses invités dans quelles mesures adopter, pardon, pour lutter contre le terrorisme. Elle s'occupera de la France, mais aussi de la question irakienne. Merci Loulou Al-Rachid d'avoir été parmi nous. Merci à vous Bertrand Badi et à Paul Moreira. Je remercie aussi évidemment Omar Waman depuis Beyrouth. Le Grand Amour d'été, c'est donc terminé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Véronique Villa. L'émission a été préparée par Alexandre Agege, Laurence Genepin, Marie Dalquier et Tanguy Omri. À la technique, Jacques Hubert. N'oubliez pas d'aller sur notre page de la page de la grande table, non pardon, du Grain à Moudre d'été, fallait que je le fasse pendant cet été, le Grain à Moudre d'été, pour retrouver toutes les informations sur cette émission franceculture.fr. Bonne soirée à tous.